RMC, After Espagne,
Nicolas Jamin.
Salut à tous, benvenidos a todos, c'est l'After Espagne, votre podcast 100% Liga, le championnat espagnol que vous retrouvez bien sûr sur YouTube. Vous êtes très nombreux à nous regarder sur YouTube également, n'hésitez pas à le faire, en plus c'est chapitré. Vous pouvez avancer si parfois Rémi Dumont vous ennuie un petit peu ou Edgar Grolot. N'hésitez pas à le faire également sur les plateformes de téléchargement, sur Afterfoot TV, vous le savez, notre chaîne de l'After, Evobox, SFR, Free, Orange et l'application RMC BFM Play. Edgar Grolot est là, comme chaque semaine. Salut Edgar, le taulier.
Salut Nico, salut tout le monde. Tu sais, attention, il y a peut-être des gens qui ont sauté ton introduction. C'est possible.
Peut-être que c'est un peu trop long, l'introduction, d'ailleurs.
Peut-être qu'ils mettront des pouces bleus, comme ta chemise aussi.
Ma chemise est bleue, effectivement. Elle est très belle, j'y tiens beaucoup.
Elle est très belle, et je te le dis aussi.
Rémi Dumont est là. Salut Rémi.
Bonjour.
Ça va Rémi?
Ouais, toi?
Sobre, hein?
Ouais, je suis chaud bouillant. Ah ouais, mais peut-être, mais là je suis chaud bouillant sur Alonso.
Presque merengué, là, la couleur de ton pull. Et on accueille notre supporter du Real préféré, deuxième apparition cette saison. Il est avec nous avec son magnifique maillot, Yannick, supporter de la Maison Blanche. Salut Yannick!
Bonsoir messieurs, enfin bonjour d'ailleurs messieurs.
Parce que... Ouais, bonjour, bonsoir, tu peux le dire, de la journée.
D'habitude d'appeler l'after, donc c'est pour ça que j'ai plutôt bonsoir d'habitude. Mais...
C'est vrai qu'on t'a parfois au
32. C'est bonjour et effectivement, moi aussi je suis chaud, on a du taf, là il y a beaucoup de sujets à aborder et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire.
Alors je vous préviens, je veux des cris, je veux du sang, je veux des désaccords, je veux du débat, d'accord? Cette semaine, c'est pas à la découverte de, cette semaine on parle de... Le Real Madrid.
Magnifique.
À la Madrid. Pas trop à la en ce moment. Madrid, ça va pas, c'est la crise. 2 victoires sur les 8 derniers matchs, un coach en grand danger. On va consacrer l'épisode à ce qui ne va pas au Real et surtout à son coach, Xabi Alonso. Le Real a-t-il raison de lui accorder une dernière chance ou est-il déjà trop tard? Doit-il avoir plus de temps que 3 matchs ou 1 match? Qui est le plus grand responsable de cette crise? Madrilène, Xabi Alonso, les joueurs ou... On n'oubliera pas le patron, Florentino Pérez. On va en débattre. Votre avis dans un instant. Vous écoutez l'After Espagne, spécial crise au Real. C'est parti! Alors d'abord Edgar, les infos surtout, il faut d'abord rappeler la situation, je le disais, il y a plusieurs versions, certains disent qu'il a encore 3 matchs pour redresser la barre du Real, les 3 matchs c'est notamment à la veste ce week-end, le club amateur de Talavera en Coupe du Roi et la réception du Séville FC. Certains disent qu'il n'a qu'un match pour sauver sa place à Alonso. Quelle est la réalité? Quelle est la vérité là?
La réalité, c'est surtout qu'en fait, au prochain faux pas, s'il y a un faux pas dans les prochaines semaines, ce sera surtout sûrement le faux pas de trop. Donc, qui perd
dans les prochaines semaines,
ce
tu dis
week-end ou face à Séville.
Ça veut dire oui, que s'il perd 3-0 contre Alavés, il est possible qu'il saute, évidemment, quand même, j'imagine.
Ah oui, non, bien sûr. C'est ça que je dis. C'est s'il y a un vrai faux pas sur ces matchs-là, ce serait très, très compliqué de l'imaginer continuer. Je pense que ce cadre-là où on se dit à chaque faux pas, il peut partir, il va durer jusqu'à la Supercoupe d'Espagne qui est début janvier. Si jamais il gagne la Supercoupe d'Espagne, là, évidemment, on recommencerait un petit peu à zéro ou en tout cas, il serait moins en danger. Mais je pense que jusqu'à ce moment-là, il va être sous pression à chaque match. Et oui, si tu perds face à Alavés, en plus ce serait la 3e défaite consécutive, c'est très 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 compliqué d'imaginer Xabi Alonso continuer avec le Real Madrid.
Alors Yannick, quelle est ta position, toi qui es le supporter du Real avec nous, par rapport à Xabi Alonso déjà? Il faut déjà acter que c'est fini. Tu veux le voir partir toi personnellement?
Je ne veux pas spécialement voir partir, mais j'ai du mal à trouver des vraies raisons pour le voir rester quelque part. Son bilan, il parle pour lui, hein, comme on dit dans le jargon. Moi, ce que je reproche, c'est que il est venu. La situation, c'est à peu près la même que l'année dernière en termes de football, etc. Mais il est venu. On l'a pris parce que c'est un technicien et on lui demandait de changer des choses. Il a fait des choses, mais des fois, il a changé ses plans sans qu'on sache vraiment pourquoi. C'est-à-dire qu'après la Coupe du Monde des clubs, il avait entamé une façon de jouer. D'un coup, il a changé. On n'a pas trop compris. Il revient en arrière. Pour moi, il est un peu perdu. Il se fait un peu bouffer par la machine aussi, parce qu'il y a des fois des situations comme la dernière fois que j'étais passé, c'était après le match contre l'Atlético, la titularisation de Jude Bellingham ce jour-là, elle n'avait aucun sens et il l'a payé. Moi, j'ai l'impression qu'il est perdu, qu'il n'y arrive pas. Et quelque part, ben oui, alors il n'y a qu'une personne qui peut entraîner Real Madrid à leur âge là et qui va faire quelque chose bien, c'est Zinedine Zidane. Maintenant, c'est sûr, si Xabi Alonso il part maintenant, on va prendre quoi, Arbeloa ou Solari, ça sera quelque chose de remplacement. Donc là, à leur âge, je me dis, autant continuer avec lui, qu'il essaie de mettre des choses en place. Mais tout ce qu'il essaie de mettre en place, on a l'impression qu'il n'y arrive pas. même s'il n'a pas de chance, effectivement, il a des blessures qui sont importantes. Mais moi, j'ai l'impression qu'il est il se fait bouffer par la machine. Moi, il me fait penser un peu au passage de Lopetegui quand il était venu. On voyait que c'était un bon entraîneur, mais on a senti qu'il s'est fait bouffer par tout ce qu'il y avait, le vestiaire, le club, la pression. Et j'ai du mal à... Il peut s'en sortir, mais j'ai du mal, moi, je ne vois pas s'en sortir.
C'est dingue parce que...
Et quand tu parles... Vas-y, mais vas-y, quand Yannick parle du fait qu'il se fasse entre guillemets bouffer par la machine, c'est vrai que, en tout cas, le ressenti quand on le voit parler, moi j'étais à la Coupe du Monde des clubs, je le voyais parler. Sincèrement, j'avais hâte d'aller en conférence de presse parce que à chaque réponse, il était vraiment à fond dedans, il donnait une réponse intéressante. On le sentait frais, motivé, etc. Et au fil des semaines, au fil des mois, on est passé à un robot, à un politicien qui donne des réponses sans saveur pour éviter une nouvelle polémique. On est passé à quelqu'un qui n'exprime plus clairement ses idées. En tout cas, ça, c'est l'image qu'il donne au public et ça commence à être souligné par la presse espagnole parce qu'on se rend compte que très rapidement, l'homme qu'on avait vu sur les premières semaines, sur les premiers mois, n'est plus l'homme qu'on a en face de nous. Alors après, ça, est-ce que c'est une réalité au quotidien quand il n'y a pas les caméras ? C'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, l'image publique qu'il renvoie, ce qui compte beaucoup quand même hein, au Real Madrid, qui est aussi un club qui est très intéressé par son image, l'image publique qu'il renvoie n'est plus du tout la même.
Il est broyé par la machine Real, hein, d'autant plus quand les résultats ne suivent pas. Quel est son bilan, Rémi, finalement, par rapport à ses prédécesseurs ? Est-ce qu'il est si catastrophique que ça ?
Ah non, parce qu'on a regardé ce que ça donnait après, et il faut le rappeler, il passe après Ancelotti et Zinedine Zidane, les deux plus grands peut-être entraîneurs du Real Madrid de l'ère moderne. Et quand on regarde leur deuxième passage, hein, puisqu'on a comparé celui de Xabi Alonso à leur deuxième passage, on voit qu'en termes de match, évidemment, Xabi Alonso en a beaucoup moins, 28, une moyenne de 2,18 points par match contre 2,25 pour Ancelotti avec 234 matchs et 2,24 pour 114 matchs pardon, pour Zinedine Zidane. On voit que finalement, c'est pas tant éloigné que ça. Et je voudrais juste rappeler aussi que le Real est actuellement 7e en Ligue des Champions, donc potentiellement directement qualifié, qu'il est aussi 2e de Liga en championnat, donc toujours en course pour gagner le titre. Pour moi, il y a des résultats qui sont mauvais en ce moment, puisque c'est 2 victoires sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais quand même, je pense qu'il y a aussi beaucoup de blessés. Le fait qu'on passe après Modric et Kroos qui sont partis, on en discutait juste en préparant l'émission avec toi, Nico, ça ne se remplace pas comme ça. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments contraires à Xabi Alonso. Tu m'avais dit qu'il en serait là, à cette place-là, à l'heure actuelle, avec tout ça... Bah, franchement, Mbappé marche sur l'eau. Vinicius, moins, c'est sûr. Bellingham, c'est un peu plus compliqué aussi, même s'il a été blessé en début de saison. Je trouve personnellement qu'il n'y a encore pas vraiment le feu au lac, même si entraîner au Real Madrid, c'est faire notre métier.
Alors, est-ce qu'il a encore des soutiens ? On dit que le vestiaire est fracturé. Oui, vas-y.
Si je me permets, bon, je suis d'accord avec Rémi sur son bilan. Maintenant, Xabi Alonso, on l'a pris pour un projet collectif, entre guillemets, et son bilan, il le doit au meilleur attaquant du monde et au meilleur gardien du monde, en fait. Parce que les deux, ils sont chauds depuis le début de l'année. Je pense que si t'enlèves un des deux, je pense que la moyenne de points, elle chute considérablement, quoi.
Ah, c'est vrai, si t'enlèves les deux, mais le problème, c'est que t'as enlevé quasiment tout l'effectif. Quand tu vois les blessés, c'est ça qui est aussi terrible hein, pour le Real Madrid. Il y a énormément de titulaires potentiels qui sont à l'infirmerie ou suspendus. Et on parle même pas de ceux qu'il y aura par rapport à Alavés dimanche, parce que voilà, il y a encore d'autres joueurs qui se rajoutent, avec notamment l'incertitude pour Mbappé. Mais pour moi, en fait, c'est comme si tu demandais à un chef étoilé de te faire le meilleur plat, mais par contre, tu lui donnes un radis et puis un poivron. Alors évidemment, si t'as pas d'autres légumes, si t'as pas d'autres ingrédients, c'est compliqué en fait d'avoir un résultat pour moi.
Ce qu'il a dit, c'est Courtois
et le poivron, c'est Mbappé. Ouais, j'irai pas jusque là.
Bon, en tout cas, les gars, il y a un truc qui est peut-être pas assez dit, je trouve, parce que tout le monde tombe sur Xabi Alonso, j'ai l'impression, c'est que le Real n'est pas le Real des générations précédentes. On a rappelé longtemps, c'est plus le Real de Kroos et de Modric. Défensivement, certes, il y a des absents, mais t'as pas les mêmes assurances au niveau individuel. C'est aussi un nouveau cycle que tente de lancer le Real Madrid. Je voudrais qu'on parle quand même de la structure d'effectifs. Tchouaméni, ce n'est pas un des deux que j'ai cité avant. Camavinga, il est intermittent. On lui a consacré un podcast il y a quelques semaines aussi. Franchement, Edgar, est-ce qu'on tape aussi à Madrid sur la politique mercato de Florentino Pérez ? Est-ce que quelqu'un au Real ose pointer ça du doigt aussi et ne pas toujours se demander est-ce que Xabi Alonso va sauter ce week-end, dans 2 semaines, dans 3 semaines ? Est-ce qu'on reconnaît une responsabilité chez le patron du Real, quoi ?
Bien sûr, de toute façon, tout le monde est coupable de la situation actuelle, que ce soit les joueurs, le staff et la direction qui a construit cet effectif-là. Et la construction de l'effectif est l'un des points centraux des débats ces dernières semaines, parce qu'on se rend compte que les problèmes sont quasiment les mêmes que la saison passée, voire sont exactement les mêmes que la saison passée sur certains points, ou en tout cas dans l'effectif. On bricole en défense depuis le début de la saison dernière. Au milieu de terrain, on sait qu'il manque certains profils techniques qui n'ont jamais été remplacées. Ce qui ne veut pas dire que les joueurs qui sont là ne sont pas des très bons joueurs de football, mais dans une équipe, il faut des profils différents et il faut de tout pour faire une bonne équipe. Et là, il y a clairement des profils techniques qui manquent dans cette équipe et ce constat-là est fait depuis un long moment. Donc, beaucoup s'interrogent de savoir comment c'est possible que certains joueurs n'aient jamais été remplacés. Ça, évidemment, c'est à garder en compte quand on fait le bilan, ou bon, c'est pas un bilan parce qu'il est toujours là, mais en tout cas, quand on fait le point sur le statut de Xabi Alonso. Maintenant, est-ce que tu as besoin d'avoir Toni Kroos et Luka Modric et les meilleurs joueurs du monde pour proposer un semblant de jeu face au Celta Vigo? Moi, je pense pas. Et c'est ça le souci, et c'est ça qui est important dans les débats. C'est que oui, Xabi Alonso n'est pas aidé par toutes les blessures. Il pourrait y avoir jusqu'à 11 blessés ce week-end à l'Alavés. Oui, son effectif n'est pas parfait. Maintenant, est-ce que tu peux faire mieux? Oui, évidemment.
Est-ce qu'il a le soutien encore de son vestiaire? On l'a dit, beaucoup ont rappelé qu'il était fracturé ce vestiaire. Vinicius, on dit même que Bellingham a de plus en plus de mal à supporter le management de Xabi Alonso. Écoutez ce que disait Thibaut Courtois, c'est toi Rémi qui a sorti cette déclaration-là.
Alors Thibaut Courtois, non mais on va l'écouter quand même. Hein.
Thibaut Courtois, on va l'écouter quand même. Peut-être que c'est moi ou c'est Fanny d'ailleurs, Fanny Bossé, notre chef d'édition. Regardez ce qu'il dit sur le soutien accordé encore à Xabi Alonso.
On n'est pas dans une bonne série, mais aujourd'hui on a montré que l'équipe est derrière le coach. Tout le monde est frustré, mais on doit continuer. Et je crois que tout le monde soutient l'entraîneur jusqu'à la mort.
Faut-il le croire?
Ouais, mais en même temps, est-ce qu'il va te dire « Non, non, moi j'en ai plus rien à faire de Xabi Alonso ».
Non, mais il peut ne rien dire aussi. Il peut juste dire « Écoutez, oui, c'est encore une contre-performance, on est déçu d'avoir perdu, on va se mettre au travail ». Personne ne l'oblige à vouloir apporter un soutien comme ça ou déclarer un soutien total à Xabi Alonso.
Peut-être, mais moi je pense surtout que Thibaut Courtois comprend que c'est pas encore, c'est pas évident, évidemment, mais c'est surtout une question de temps, en fait. Ça fait que, mine de rien, il a signé, je crois, en juillet, en août.
Sept mois qu'il est là,
bah voilà, ça fait sept mois dans le foot, c'est rien. En même temps, tu as besoin de temps quand tu as un entraîneur, surtout quand tu perds autant de joueurs, comme on disait avec Kroos et Modric, même s'ils jouaient un peu moins la saison dernière, ils étaient plus dans la rotation. Mais au-delà de ça, tu as un Mbappé qui marche sur l'eau, tu as des recrues, certes, comme Alexander Arnold qui performe pas vraiment. Bellingham, encore une fois, qui était blessé. Quand on voit la liste des blessés qu'on a préparé avec Fanny, c'est assez compliqué de trouver limite, même un 11 actuellement. Donc évidemment, il y a du bricolage. On voit Alexander Arnold, problème musculaire, Huyssen, entorse, Militao, musculaire, Fernand Mendy qui n'a pas joué depuis longtemps, aussi problème musculaire, Cavral, c'est le genou, Alaba, le genou, Camavinga, la cheville. À ça, on rajoute Carreras et Henrik qui seront suspendus contre Alaves et l'incertitude de Mbappé par rapport à son problème au genou. Franchement, tu as quasiment toute l'équipe titulaire qui est à l'infirmerie. Donc encore une fois, c'est compliqué, mais au-delà de ça, moi je pense que les joueurs sont vraiment derrière Xabi Alonso, peut-être à part ceux qui jouent moins comme Rodrigo, et encore, hein, quand on voit sa célébration en Ligue des Champions, il va vers lui, c'est pour montrer qu'il est avec lui, quoi.
Edgar, rapidement là-dessus, est-ce que tout le monde le soutient à mort, vraiment?
Alors, c'est vrai que la célébration de Rodrigo avec lui, c'était quand même un message assez fort. Maintenant, est-ce que tout le monde le soutient? C'est une question compliquée parce qu'on sait que nombreux sont ceux qui n'étaient pas satisfaits pendant les premiers mois de cette saison de leur temps de jeu, de leur statut, de beaucoup de choses, de ce que voulait mettre en place le coach. J'ai entendu un confrère espagnol quand on était justement dans cette zone d'interview qu'on attendait Courtois, qu'on a vu Courtois arriver. Et j'ai un confrère espagnol qui a dit à ceux qui étaient autour de lui « Ah tiens, le capitaine du Real Madrid, Thibaut Courtois, arrive ». C'était ironique évidemment puisque ce soir-là c'était Fede Valverde qui avait le brassard de capitaine. Fede Valverde qui est régulièrement cité comme l'un des joueurs qui est frustré de sa situation avec Xabi Alonso, notamment par rapport à son poste. Et certains s'interrogent de savoir pourquoi un joueur comme Fede Valverde ne parle pas. Aurélien Tchouaméni, depuis le jour 1 de l'arrivée de Xabi Alonso en a fait un pilier fondamental, je le cite, de son équipe. Et c'est Aurélien Tchouaméni qui est venu s'exprimer devant la presse avant le match. Donc, en fait, les joueurs qui seraient le plus frustrés avec Xabi Alonso, on les entend pas ou on les entend peu.
C'est pas un hasard.
Donc, est-ce que je pense qu'il y a quand même une amélioration parce qu'il y a forcément eu un dialogue, notamment avant le match face à l'Olympiakos. Il y a eu pas mal de dialogue entre le coach et les joueurs pour essayer d'être un petit peu plus unis. Le problème, c'est s'il y a déjà eu des dégâts, entre guillemets, dans la relation entre le coach et les joueurs, si le coach a aussi dû faire des concessions, c'est difficile de faire marche arrière après.
Alors, on fait une pause rapide. Et dans un instant, on va, pas écouter, mais lire quelques déclarations fortes d'une légende du Real Madrid, Karim Benzema. Entretien accordé à l'équipe. Lui a pointé les problèmes précis qui frappent le Real dans cette première partie de saison. Restez avec nous, la suite de l'After Espagne dans un instant. Avec Rémi Dumont, avec Yannick, notre supporter du Real, et Edgar Grolot en direct de Madrid, notre correspondant en Espagne. Alors Benzema, j'imagine que vous tous, vous avez lu cette interview passionnante, et surtout les extraits qui concernent le Real Madrid. Et c'est de quoi il parle, Benzema, bien sûr. Il est parti il y a maintenant 3 ans et demi du Real Madrid sur un titre et sur un ballon d'or. Voici ce qu'il dit notamment sur les problèmes au Real Madrid. L'entraîneur ne peut rien faire, il parle de Xabi Alonso, bien sûr. Il a des noms. Il met les meilleurs. Après, c'est entre joueurs. Si ton coéquipier est plus fort que toi, il faut l'accepter. Le problème, c'est si tu n'acceptes pas que le gars qui est devant toi marque plus de buts que toi. C'est pour ça que tu as des problèmes quand tu as 5 ou 6 grands joueurs ensemble. Il pointe une sorte de guerre d'ego en réalité, quoi. Je ne sais pas comment tu lis ça, Yannick, précisément toi. Sentiment qui a effectivement, ce n'est pas la première fois dans l'histoire du Real, un empilement de stars. Et le Real a gagné avec un empilement de stars. Lui, il parle aussi plus tard de problèmes de connexion entre ces joueurs-là et qu'en clair, chacun un peu tire la couverture vers lui. Est-ce que c'est comme ça que tu le ressens, toi, Yannick ?
Oui, bah, c'est sûr qu'effectivement, on voit un peu ce qui se passe devant, hein, entre Vinicius, Mbappé, même si Mbappé met tout le monde d'accord avec ses stats. Hein, mais le problème, si vous voulez, ce que moi, dans la déclaration de Karim, c'est une individualisation donc, très importante du football, ce qui est un peu le cas au Real. Le Real, ça a toujours été une équipe d'individualité, entre guillemets. Mais ça pointe aussi en fait une façon de manager et ça explique beaucoup de choses en fait parce qu'on est passé de Carlo Ancelotti qui est on va dire le manager à la papa, vraiment celui le papy quoi, que tout le monde aime, tout le monde respecte. Alors je n'enlève rien de ses qualités, mais voilà, c'est un management qui est très dans la, on va cajoler les stars, on va toujours mettre les meilleurs, on va dire les joueurs avec le plus gros statut sur le terrain. Mais et Xabi Alonso, il n'est pas venu pour ça, parce que de toute façon ce management d'Ancelotti l'année dernière, on était arrivé à la limite. Donc oui, il y a des stars, oui, il n'y a pas des stars, mais bon, Xabi Alonso, il a fait jouer, par exemple, il fait jouer Ceballos contre City. Moi, c'est une bonne idée, moi je suis d'accord. L'année dernière, on s'est aperçu que Ceballos était le joueur le plus complémentaire avec Tchouaméni. Le problème de Ceballos, c'est qu'il n'a pas le niveau pour jouer au Real. Donc, qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Mettre Fede Valverde, mais Fede Valverde, il n'est pas bon à ce poste-là, il n'est pas complémentaire avec Tchouaméni. Donc, Karim Benzema, oui, effectivement, lui, il était dans une équipe où tu n'avais que des tauliers. Là, il y en a moins. Il y en a même, pour ainsi dire, pas, parce qu'au final, il y a peut-être Courtois, mais Courtois, c'est un gardien. Et c'est aussi ce qu'il dit dans sa déclaration un petit peu plus tard, quand il dit qu'il n'y a plus de taulier au Real. Ah oui, c'est sûr qu'en ce moment, c'est compliqué. On ne peut pas demander à un Jude Bellingham qui est là depuis 2 ans, qui a 20 ans. Kylian, c'est pareil.
Oui, mais en revanche, Yannick, on peut leur demander peut-être de respecter le rôle qui leur est attribué. Ça, Benzema le dit aussi dans un autre extrait. Il parle de zone à respecter. Il dit Vinicius, ce n'est pas le 6, c'est l'ailier gauche. Mbappé, c'est le buteur, pas le meneur de jeu. Moi, ce que je lis entre les lignes, c'est que Mbappé, parfois, a tendance à trop dézonner. Peut-être qu'il doit se discipliner aussi. C'est un œuf, il doit tourner autour de la surface de réparation. En tout cas, la pointe de l'attaque du Real Madrid. Rémi, dans un instant, ta réaction. Je veux d'abord entendre celle d'Edgar et notamment des socios du Real à Madrid. Est-ce que, parce que ce débat, peut-être qu'il est lunaire, vu d'Espagne, en France, il existe, par exemple, non, concernant Kylian Mbappé. OK, les stats sont folles, il empile les buts. Quand il ne marque pas, le Real ne gagne pas. Mais est-ce que on se dit qu'il n'a pas réussi ? En tout cas, il a grippé la mécanique du Real en Espagne, malgré ses buts.
Non, on ne se dit pas ça parce que, comme a dit Yannick très justement au début de l'épisode, s'il n'y avait pas Mbappé cette année, je ne sais pas à quoi ressemblerait cette équipe. Je ne sais pas combien de points elle aurait, vu à quel point il a sauvé à maintes et maintes.
Mais est-ce que Bellingham ne serait pas plus efficace, notamment comme il y a 2 saisons, il avait fini à 25 buts est-ce que Vinicius ne serait pas plus efficace ? Je ne sais pas, je pose des questions.
Mais en fait, la question elle est assez simple finalement. Quand tu as un joueur qui te marque 25 buts alors qu'on est qu'à mi-décembre, évidemment que les autres joueurs vont moins marquer. Parce que si, sinon, tu vas mettre 10 buts par match. Si tout le monde garde les meilleures stats de sa carrière, on va mettre 10 buts par match côté Real et ça va être la meilleure équipe de tous les temps. Mais évidemment, quand l'équipe est centrée essentiellement autour des buts d'une personne, les autres vont en pâtir. Maintenant, c'est pas parce que Bellingham pourrait mettre 5 buts, 10 buts de plus dans la saison que l'équipe en serait forcément meilleure. Il y a aussi eu des campagnes de Ligue des Champions qui ont été à certains moments assez miraculeuses et qui, je pense, biaisent aussi notre analyse de certaines saisons du Real Madrid. Mbappé n'est pas la faute de tout. Évidemment, si le Real Madrid ne gagne pas de grands titres cette saison, en Espagne aussi, on va commencer à se poser des questions. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Est-ce que je comprends ce que veut dire Karim Benzema complètement sur les postes? Il y a eu des moments où ils se sont marchés dessus. Il y a des moments où, effectivement, on ne voit pas la connexion qu'on aimerait, qu'on devrait voir entre ces joueurs-là. Maintenant, quand il dit le coach ne peut rien faire, là on peut pas être d'accord avec ça, parce que alors dans ce cas là on met pas de coach, ou dans ce cas là on met juste un team manager qui fait l'intermédiaire entre les joueurs, mais le coach il est pas là que pour manager. Et d'ailleurs Carlo Ancelotti, qui a donné une interview récemment, je crois que c'était pour TNT Sports, disait: je ne suis pas qu'un manager, je suis aussi un tacticien, et c'est la réalité des choses. Donc Xabi Alonso, c'est à lui de dire aux joueurs s'il veut que Vinicius reste que sur son aile et ne dézone pas, c'est à lui de le dire. S'il veut que Mbappé soit juste un numéro 9 à l'ancienne, ce qui n'est pas le cas puisqu'il ne veut pas que Mbappé soit un numéro 9 à l'ancienne, il veut lui donner de la liberté, c'est à Xabi Alonso de le faire. Et un joueur, s'il y a bien un joueur, je trouve, où c'est peut-être la faute du joueur, c'est quand même Jude Bellingham, qui Jude Bellingham a fait une saison exceptionnelle quand il n'y avait pas de vrai numéro 9 de grande qualité dans l'effectif. Il a mis énormément de buts parce que c'est un joueur qui est très bon devant les cages, mais peut-être qu'il faut qu'il comprenne aussi que parfois, il va devoir rester un petit peu plus bas. Il va devoir avoir un rôle un petit peu différent. Et oui, moi, j'adorerais essayer de voir un Jude Bellingham qui joue vraiment un poste de numéro 8. Parce que pour moi, il en a toutes les qualités. Et on l'a déjà vu jouer un petit peu plus bas. Et on l'a déjà vu être exceptionnel parce qu'il est capable d'apporter défensivement, dans la projection, dans la passe. Et Arda Güler, lui, quand il joue 10, il est très performant dans la passe et avec la connexion qu'il a avec Kylian Mbappé. Donc, on aimerait voir des joueurs aussi, peut-être à d'autres positions. Et ça, c'est le rôle de Xabi Alonso.
C'est ce que dit Benzema aussi sur Vinicius. Il faut que Bellingham comprenne qu'il est le meneur de jeu, pas le buteur. Rémi.
Alors, déjà dans les chiffres, ça se constate, puisqu'on s'amusait à compter le nombre de buts qu'avait marqué le Real cette saison. Ils ont beaucoup de buteurs, mais il y en a un qui performe évidemment plus que les autres, c'est Kylian Mbappé avec 25 buts. Derrière, le deuxième meilleur buteur, c'est Vinicius avec 5 buts, pour montrer à quel point il concentre toutes les actions quasiment offensives. Kylian Mbappé derrière, c'est Bellingham, 4 buts, 3 pour Arda Güler, 2 pour Camavinga et 1 pour Brahim, Rodrigo, Carreras, Militao, Huijsen et Mathieu Antonio. Vous avez tous les buteurs du Real cette saison. Pour en revenir, je trouve, à Bellingham, il y a aussi un côté qu'il ne faut pas lui enlever. C'est que certes, il a été exceptionnel, mais lui, pour l'instant, a gagné la Ligue des Champions avec les joueurs qui restent de cet effectif en 2023-24. Kylian Mbappé, lui, il n'a pas encore gagné. Alors après, vu comment il est performant, c'est difficile, je trouve, pour un manager de dire à un joueur: attends, toi, tu ne vas pas jouer parce que lui, il est meilleur. Non, en fait, c'est ce qu'il y a de plus logique. Par contre, pour le faire comprendre à des mecs qui veulent toujours tout gagner, tout le temps jouer, tout le temps performer, tout le temps briller, c'est là où ça se complique. Et c'est là où, pour moi, je pense que, oui, effectivement, Xabi Alonso doit peut-être avoir un rôle différent dans sa manière de gérer l'équipe, plus que ce qu'il l'avait à Leverkusen. Et d'ailleurs, pour le coup, on va revenir sur le son de Thierry Henry sur CBS, où justement lui, il expliquait sa façon de voir les choses en tant qu'entraîneur du Real. Il expliquait via Gareth Bale pourquoi Xabi Alonso devait changer sa manière de gérer son effectif.
L'autre jour, Gareth Bale nous expliquait qu'à Madrid, tu dois manager une équipe. Aujourd'hui, nous avons un homme, et je parle évidemment de Xabi Alonso, qui entraîne un peu trop selon certaines personnes et ne manage pas assez. Cela me désole pour lui, car on a pu voir ce qu'il a réalisé à Leverkusen lorsqu'il a eu la possibilité d'entraîner une équipe et faire ce qu'il a fait. Mais à Madrid, c'est différent.
Juste pour terminer là-dessus, quand Xabi Alonso, alors certes, on ne peut pas faire vraiment de comparaison entre Leverkusen et Real Madrid en termes de standing, mais quand il reprend le Bayern Leverkusen, ils sont 17e de Liga, de Bundesliga. Il va les emmener sur le toit de l'Allemagne et le toit de l'Europe.
Il a raison, c'est caricatural ce que dit Thierry Henry, Yannick. Il faut être avant tout un manager. L'histoire récente semble le dire, en tout cas, deux managers, deux grands managers, validé, légitime, aimé, adulé par les joueurs du Real, Zidane Ancelotti. C'est ce qui lui manque à Xabi Alonso ?
Je pense que c'est ce qui lui manque. Là, quand Edgar il nous parle justement du fait que moi, je suis tout à fait d'accord que Bellingham, il faudrait qu'il recule, qu'il soit 8. Je pense pas que Xabi Alonso, il ait l'aura et les épaules pour imposer ça à Jude Bellingham, qui, par ses plans com, par ce truc, veut être 10, veut briller, veut machin, veut truc. Enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place. Moi, Bellingham, franchement, on peut pas lui en vouloir parce que depuis qu'il est là, pour la peine, lui, il mouille le maillot, il a toujours tout donné, il a un caractère un peu spécial. Mais lui, franchement, faire ce qu'il fait à son âge et faire ce qu'il a fait et tout, moi, vraiment, Bellingham, il triche pas. Mais voilà, quand je parlais d'Idane tout à l'heure, c'est sûr que Xabi Alonso, il peut pas, mais si Zidane demain rentre dans le vestiaire, il dit bonjour, Bellingham, il va prendre ses affaires, il va aller se mettre en 8 et il va rien dire. Hein. Donc, mais bien sûr, il y a ce côté manager, c'est un peu triste que ça soit aussi cadenassé, mais le problème aussi qu'il y a, c'est que je pense que là où ça n'a pas joué pour lui, Xabi Alonso, c'est qu'il n'a pas réussi à monter un projet assez vite et à embarquer les joueurs dans ce projet, en fait. Et je pense qu'il a changé un peu trop son fusil d'épaule. Il y a eu 2-3 défaites marquantes, comme celle contre le PSG ou l'Atlético, qui ont fait que les mecs ont un peu douté, en fait, du coach, quoi. Donc oui, ben oui, il a raison, Thierry Henry. Mais après, à un moment donné, soit tu as le courage de laisser Xabi Alonso, et comme le disait Rémi, ben, tu dis, mais ça, c'est au président de descendre et de dire, bon, les gars, maintenant, c'est pas compliqué. Xabi Alonso va rester toute l'année. Mais au Real, ça se passe pas comme ça. On n'est pas dans un club moyen. On n'est pas dans un. S'il perd contre Alavés ou si on finit la saison, il sera obligé de le remplacer parce qu'à un moment donné, quand ça commence à péter dans un club comme Real, ça pète partout, en fait. Et je voulais juste donner une précision par rapport au débat sur Mbappé, parce qu'effectivement, alors Mbappé prend de la place, mais moi, je suis désolé, mais Vinicius, si en ce moment il est moins bon, c'est pas à cause d'Mbappé. Moi, il a encore beaucoup d'occasions, Vinicius. Il rate des passes, il rate des contrôles. Depuis qu'on lui a volé son ballon d'or, il est plus là, Vini, en fait. Donc, pourtant il y a une relation qui n'est pas dégueulasse sur le terrain avec Mbappé, mais individuellement il rate trop, techniquement il a trop de déchets, et n'en parlons même pas de Rodrigo lui
c'est bon, il a remarqué enfin
ouais, mais tu vois c'est pour ça on parlait de Bellingham aussi, mais l'autre pour moi intérêt ça serait presque d'essayer de faire jouer Mbappé à droite ou de jouer en 4-4 de losange. Tu vois, tu joues en 4-4
il voudra pas un Kylian,
mais je pense que même Florentino Pérez il voudra pas lui demander ça à Mbappé de jouer à droite.
Ah ouais, non mais c'est sûr, mais de toute façon, il faut faire quelque chose. Ou tu joues en 4-4-2 et tu joues avec Vini et Bellingham, il faut lui trouver une place, mettons en 10. Mais en fait, il y a un vrai taf tactique à faire, et ça fait quand même 7 mois qu'il est là, Xabi Alonso. Et c'est pour vrai. L'instant, mais... on en est au même point qu'au jour où il est arrivé, en fait. Quoi.
Edgar, qui pour lui succéder surtout, oui, si jamais il est débarqué ? Tout à l'heure, il a parlé rapidement, Yannick, de Arbeloa, par exemple. Klopp, et on va évacuer. Hein. Klopp et Zidane, ça n'arrivera pas. Voilà, si vous nous écoutez. Klopp est engagé dans un projet important pour lui auprès de Red Bull. Zidane, un projet à venir très important pour lui sur le plan intime, personnel. Non,
mais surtout que dans la presse madrilène, j'ai vu, après je parle sous le contrôle d'Edgar, mais il proposait même, il y avait une idée qui, comme quoi il pourrait faire l'équipe de France et en même temps le Real. Impossible.
Non, je pense que Zidane ne voudra jamais relever un tel défi, un double défi. Edgar, de qui on parle aujourd'hui au Real ? Si jamais Xabi Alonso n'est plus le coach dans les prochaines semaines ?
Oui, d'Arbeloa, de Solari, mais par exemple, si on met Arbeloa qui, moi j'en entends que du bien depuis que je suis arrivé à Madrid, et apparemment il est très très bon avec les équipes de jeunes et du Real Madrid d'abord, et puis maintenant avec le Castilla, le problème c'est que si tu le mets, qu'est-ce qu'il va apporter de plus que Xabi Alonso ? Est-ce que lui, qui n'a jamais entraîné une équipe professionnelle de très haut niveau, va réussir à gérer toutes ces stars-là ? Est-ce que tu ne vas pas te griller aussi un entraîneur d'avenir ? Puisque vu qu'on n'en entend que du bien, c'est bien que le Real Madrid aussi mise sur lui, pourquoi pas, pour l'avenir. Mais aujourd'hui, tu le grilles si tu le mets 6 mois dans ce cadre-là, ou alors c'est que c'est vraiment le meilleur entraîneur de tous les temps en devenir. S'il arrive à faire quelque chose d'exceptionnel de ce qui se passe maintenant au Real Madrid, ce serait un exploit absolu. Donc la question est là, et je pense que c'est une partie de la réponse de pourquoi Xabi Alonso est toujours là. Oui. C'est ça sert à quoi de le remplacer aujourd'hui, en fait, même s'il a une responsabilité, est-ce que tu vas réussir à trouver mieux ? Le problème, c'est que quand il y a un problème dans un club, bah, le fusible numéro un, le plus facile à faire sauter, c'est le coach, et le coach est en partie responsable aussi des échecs aujourd'hui du Real Madrid, mais tu vas pas virer tous les joueurs ni toute la direction pour essayer de régler les problèmes.
Le dernier qui a fait le chemin Castilla, équipe première du Real Madrid, il a fait 3 Ligues des Champions, c'était Zidane. Voilà, peut-être ce qui manque à Arbeloa, évidemment, l'histoire, la légitimité, le charisme. Plus facile pour être un très bon manager. C'est terminé, les gars, on s'est régalé. Merci Rémi Dumont. Merci à Edgar Grolot en direct de Madrid. Merci à Yannick, toujours aussi bon, toujours aussi précis. Merci de mettre un maillot du Real également. Nous, on n'a pas le droit, on est journaliste, tu comprends, on ne veut pas se mouiller. Comment ?
J'ai gagné sur RMC en 2013.
Waouh ! Eh bien, écoute.
Et il est floqué ou pas ?
Non, il n'est pas floqué, non.
Pas floqué. Yannick, c'était un régal de t'avoir avec nous cette semaine encore une fois. On te convoquera à nouveau dans la saison si ça va beaucoup mieux.
Pas de soucis pour le Real. Merci à vous.
Il y a pire comme crise, bien sûr, que celle qui frappe le Real. Merci Edgar, merci Rémi, merci à Fanny Bossé également, Fabien Zolkowski et toute l'équipe technique en régie.
Merci Lenix.
Rendez-vous la semaine prochaine surtout pour un nouvel épisode
à très vite.
Podcast After Espagne. Bye bye.
RMC After Espagne.